Je suis Jacques Lolive, donc je suis chercheur en sciences politiques et en aménagement, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire PACTE. Je voudrais vous présenter une recherche sur l'habité, hein, le lien, la relation qu'a l'habitant avec son milieu de vie. Et mon entrée, je suis politiste, ça va être la mise en politique de l'habité. Comment cette catégorie, qui n'est pas politique a priori, va se transformer en politique. Alors, il y a deux périodes dans ce parcours de recherche. Hein. La première, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau macro-politique, au niveau des collectifs, au niveau des mobilisations. Donc, qu'est-ce qui va se passer finalement sur le comment l'esthétique va contribuer à transformer, à enrichir à l'espace public. Ça, c'est là. Alors, donc, il y a quatre propositions. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous le présenter. Donc, on passera directement à la deuxième partie. Hein. Ça va être expérimenter des méthodes participatives pour mettre en œuvre cette théorie esthétique de l'espace public. Là, c'est pas suffisamment de temps. Je suis désolé. Donc, on va passer directement. Voilà. Donc, ça. Donc, la première partie de ma présentation, si je vous l'avais fait, on se serait rendu compte que les collectifs habitants, les collectifs d'artistes ont une capacité impressionnante à transformer l'espace public. Mais ce qui nous étonne, nous, scientifiques, c'est qu'ils font ça sans utiliser aucune théorie. Ils font ça en utilisant des méthodes. Donc, une fois qu'on a bien travaillé sur ces mobilisations esthétiques, sur leur capacité à transformer l'espace public avec des méthodes, on se dit on va essayer de faire pareil pour comprendre quels sont les petits mécanismes qui sont transformateurs, comment tout ça fonctionne. Donc autrement dit, on va adopter une posture pragmatique et on va faire de l'expérimentation méthodologique. Alors, première expérience, notre problème c'est qu'on se dit au cœur de cette capacité de transformation, au cœur de cette capacité de mobilisation, il y a l'expérience de l'habitant. Donc on va chercher des méthodes qui permettent d'accéder à l'expérience de l'habitant. Une des recherches qu'on a faites, elle s'est faite dans la Basse-Vallée du Var, à côté de Nice. Hein. Vous voyez, c'est un lieu pas tellement merveilleux, hein, qui est rempli d'infrastructures, qui est rempli de zones d'activité, très, on pourrait dire, ouais, fonctionnel, hein, pas un lieu qu'on adore. Et là, on va faire des ateliers d'écriture. Alors, l'atelier d'écriture, c'est apprendre à devenir écrivain. On s'en fiche, ce n'était pas notre problème. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire en sorte que, à partir des témoignages d'habitants, faire en sorte que ces témoignages d'habitants deviennent des récits, avec tout un ensemble d'enrichissements narratifs, de processus narratifs, sur lesquels on puisse travailler. Et ce récit, ça va être le récit de leur rapport au fleuve. Puisqu'on est dans la vallée du Var, on voudrait comprendre quel est le mode d'habiter cette vallée du Var. Donc, on va faire des ateliers d'écriture pour que les habitants nous racontent des récits les plus enrichis possibles, les plus littéraires possibles, de manière à pouvoir exploiter tout ça. Donc, on a utilisé un animateur spécialisé dans les ateliers d'écriture, Marien Guillet, et on a recueilli un matériau de 38 récits. Matériel totalement inexploitable par nos méthodes classiques, puisqu'il est littéraire. Donc il a fallu imaginer une méthode, mais ça on n'a pas le temps de vous le présenter, mais une méthode interprétative. Hein. Donc essayer un petit peu de ne pas vouloir appauvrir le sens, mais laisser les différentes interprétations du sens se donner libre cours. Puisqu'on a affaire à des récits d'habitants, c'est contradictoire, c'est pas quelque chose du tout de, qui obéit au principe du tiers exclu, etc. L'analyse des matériaux qu'on a recueillis, elle nous a permis une piste de recherche, c'est de considérer que le mode d'habiter, on va le voir sur une entrée narrative. On va considérer qu'un mode d'habiter, c'est un récit d'habitant, un certain type de récit d'habitant, qui configure un petit monde avec, dans lequel le sujet du récit habite. C'est pas l'habitant concret qui habite là, hein, c'est le sujet du récit. Donc on sait qu'on a un biais narratif, et qu'effectivement, le sujet concret, il habite aussi selon d'autres modalités. Autrement dit, quand on utilise cette première méthode, il va falloir la combiner avec d'autres méthodes qui sont plus ouvertes à une dimension corporelle de l'expérience habitante. Hein. Là, on met l'accent sur le narratif. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle nous a permis de repérer ? Ben, elle nous a permis de repérer des choses qui semblaient importantes, mais qui sont peut-être un peu évidentes aussi, hein, l'importance du sensible et de l'imaginaire dans les modes d'habiter. On n'habite pas du tout uniquement selon des dimensions matérielles, concrètes, etc. Et puis la difficulté pour les gens d'habiter dans un espace fonctionnel et banalisé. D'une certaine manière, cette méthode, elle permettrait, si on l'utilisait plus souvent, d'apprécier l'impact symbolique, les perturbations symboliques, les préjudices symboliques qui sont subis par les habitants quand on réalise un grand équipement. On a donc défini une typologie des modes d'habiter, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, bon, habiter un espace de nature, c'est un certain type de mode d'habiter, certaines références, habiter dans un espace à risque, habiter peu la basse vallée du Rhône, la basse vallée du Var, le Var habiter plus qu'il n'y paraît, enfin bon, je vous montre plusieurs... Je peux vous en présenter une pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hein. Le mode d'habiter des enfants, le Var de l'enfance, hein, habiter la basse vallée du Var de l'enfance, c'est un mode d'habiter qu'on a trouvé dans sept récits. C'est vrai qu'il est formaté par l'âge, bien sûr. Hein. Il comporte des attaches très récréatives. Hein. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de ludiques. Hein. Et c'est un récit qui n'est pas toujours très travaillé. Hein. C'est des petits gamins. Hein. Et en réalité, c'est ça exprime l'attachement aux espaces de l'enfance, mais ça montre aussi, comment cet attachement, il est coloré par la présence du Var. Le fleuve est toujours présent en arrière-plan, et d'une manière... et puis ce qu'on a de remarquable, c'est les plaisirs intenses de la baignade. Hein. Par exemple, il y a un enfant qui nous écrit que l'eau était bonne, il met 3 points d'exclamation. Bon, ça veut dire quelque chose. Il y a une capacité d'émerveillement de l'enfant. Bon, voilà. Je donne pas de détails, mais il y a toujours cette capacité d'émerveillement, même quand il est question du risque. Même quand il est question du risque d'inondation qui fait peur à l'enfant, l'enfant a toujours... il trouve beau, hein, il voit la montée des eaux, il voit les barrages, mais il dit « Ah, qu'est-ce que c'était beau !» Donc la tonalité affective dans ce cas-là, c'est l'immédiateté, la fraîcheur des sensations. Bon, deuxième expérimentation, la carte de Gulliver. Carte de Gulliver, vous voyez ce que c'est ? C'est une grande photo aérienne à grande échelle, hein, ou à petite échelle, diraient les géographes. Hein, c'est infini. Mais l'idée, c'est qu'on est sur cette carte comme un géant qui marche sur Lilliput. Hein, vous voyez ce que ça donne, hein, c'est ça. Donc on marche sur une immense... Et là, c'est une photo aérienne. Donc le dispositif, c'est une photographie aérienne de 6 mètres sur 4, l'échelle 1 millième. Donc on a vraiment une très grande précision. Hein, le lieu est bien représenté. On pose des questions aux participants. Où est-ce qu'ils vivent? Quelles sont les zones à risque? Que pensent-ils des mesures préventives? On a fait ça dans le Morbihan, à Gavre, hein, une zone qui a maintenant beaucoup plus d'inondations qu'auparavant, des tempêtes, enfin bon, une zone à problème. Et à l'aide de post-it, à l'aide de craie, les gens vont pouvoir écrire et localiser leurs impressions. Alors, ça, c'est le premier aspect. Alors, comment fonctionne ce dispositif? D'abord, on n'est pas du tout dans un système d'esthétique traditionnelle où on contemple la photographie. Vous voyez bien que, vu la taille du document, on n'est pas dans la contemplation, mais on a un corps qui se déplace sur un support. Donc, ce n'est plus du tout le même rapport. Donc, on est dans l'engagement esthétique, hein, l'esthétique de l'engagement. Et ce dispositif, si on veut regarder, il y a une logique corporelle. La logique corporelle, elle est en 3 temps. Dans un premier temps, on s'approche du support. Parce que ce support, il est beau, donc ça plaît, donc on s'approche. Donc on franchit la limite et on se met à marcher dessus. Dans un second temps, on survole le support. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher à se repérer. Donc on cherche quoi ? Les grandes lignes du rivage, on cherche les réseaux de communication. Donc la personne survole, entre guillemets, le support et elle essaie de se repérer. Puis ensuite, elle plonge et elle pointe. Regardez, voilà, il est en train de le faire. Il plonge, il pointe sur un lieu qui l'intéresse, et puis ensuite, il se met à 4 pattes. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Je vais vous dire que quand on arrive à mettre en mouvement le corps, on va libérer la parole. On va avoir un autre type de relation. On n'est pas dans la relation du spectateur, hein. On est dans un tout autre type de relation, et on va se rendre compte que cette libération de parole, ça va produire beaucoup, 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 beaucoup de propos. Donc ça, c'est première dimension de fonctionnement. Deuxième dimension du fonctionnement, à partir du moment où la photographie est précise, elle a tout un ensemble de petits détails, et on se rend compte que ces petits détails, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu technique, mais des embrayeurs de mémoire. C'est-à-dire qu'à partir de ces détails, on arrive à reconstituer par association de l'expérience vécue. Donc, une manière d'accéder à l'expérience, c'est cette vision précise de la réalité qu'apporte la photo aérienne. Dernière dimension, on collecte des savoirs locaux. Et ces savoirs locaux, Berck a très bien expliqué comment ça fonctionnait, ce truc. Hein. C'est un rapport entre des motifs paysagers et des motifs d'action. Regardez, quand on regarde cette structure, on voit très très bien tous les motifs du paysage, c'est-à-dire la ligne d'inondation, l'occupation des sols, etc. Bon, ces motifs, pour Berck, c'est des prises écuménales, c'est-à-dire qui correspondent à un certain type d'action de la personne. C'est-à-dire, là, ce qui va être mis en avant, c'est le risque. Donc, quand on contemple le rivage, on va voir certains aspects du rivage qui traduisent une fragilité, une vulnérabilité, des inondations, etc. Donc c'est un système qui fonctionne pas mal. Troisième expérimentation, la scène du risque. Alors, la scène du risque, c'est l'expression publique des émotions. Là, on se retrouve au niveau du Brésil. Hein. On est dans un condominium, dans une zone contaminée. Il y a 8000 personnes qui habitent là depuis 18 ans. Et ils savent qu'ils sont dans une zone contaminée. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, il y a une explosion. Une personne est morte, une personne a été gravement blessée. C'est donc du méthane. Il y a du méthane qui se dégage, tout à fait explosif. Les gens sont donc dessus. Et il n'y a pas que ça. On a trouvé également tout un ensemble d'autres contaminants, notamment des cancérigènes, du benzène, des dérivés benzéniques, etc. Et depuis 18 ans, les gens sont là. Il y a une procédure juridique qui s'éternise, et les types sont toujours là. Donc, il y a une certaine tension. Et là, on rentre dans une dimension de beaucoup de désarroi de la part de la population, de la colère. Et donc, quand on est allé faire une immersion d'une semaine dans cette zone, c'est un de nos terrains d'étude, on a eu affaire à une bordée de colère des habitants qui nous ont parlé, qui nous ont interpellés, qui nous ont insultés, engueulés, etc. Donc, le désarroi s'est exprimé avec beaucoup de force. Et nous, on a trouvé ça très intéressant. Sur le coup, ça nous a un peu dérangé, un peu secoué, mais on s'est dit que c'était très intéressant parce que c'était l'expression publique des émotions et collective. Et ça, c'est très important parce que, bon, ça nous aide à connaître la vulnérabilité, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a non seulement une circulation d'informations, mais une circulation d'émotions. Et les émotions qui circulent, qu'est-ce qu'elles traduisent ? Elles traduisent les liens de la population avec leur milieu de vie. C'est-à-dire que les affects des gens correspondent à un territoire qui est affecté lui-même. Autrement dit, à travers l'expression de cette émotion, se traduit le lien avec le milieu de vie en question. Et d'une certaine manière, en retravaillant sur cette question, on aboutit à une réappropriation du lieu. Parce que ce territoire, il faut vous dire qu'il est totalement approprié par les experts, les dépollueurs, les techniciens, les ingénieurs qui sont là. Eux, c'est leur terrain de jeu. Mais ce que nous disent les habitants avec force, c'est que ça reste un milieu de vie, même s'il est pollué, même s'il est contaminé. Donc ça, c'est important. Dernier aspect de cette scène du risque, enfin, on appelle ça la scène du risque, hein, ce lieu d'expression des émotions en public. Dernier aspect de la scène du risque, ça permet d'apaiser l'expérience douloureuse des habitants. Deux mécanismes, hein, la mise en commun des émotions, et puis le deuxième mécanisme, c'est la reconnaissance par autrui, qui est censé réparer toutes ces blessures qui ont été causées aux gens par le manque de respect, hein, le disrespect tout, qui est très important, puisqu'on a construit en connaissance de cause des logements avec 8000 habitants sur une zone qu'on savait pertinemment être polluée. Donc il y a vraiment un problème. Troisième, dernière expérience, le théâtre Forum. Alors, on change complètement de lieu. On arrive dans une petite ville du littoral nord qui s'appelle Saint-Sébastien. Et Saint-Sébastien, vous voyez, c'est très très beau, c'est paradisiaque, il y a beaucoup de cocotiers, la plage et tout. Mais vous voyez autre chose, vous voyez un énorme terminal pétrolier. C'est le plus grand terminal pétrolier d'Amérique du Sud. Hein. 50% du pétrole brésilien arrive là. Et qu'est-ce que vous avez au milieu ?
La ville. Au milieu de cette énorme, encerclée la ville.
Inutile de dire que cette ville est exposée à des risques énormes. Mais qui sont plus seulement des risques, qui sont de... On parle de catastrophes là. Donc, l'entreprise, c'est Petrobras, hein, bien sûr, bien connue. Donc, on s'est dit que là, il y avait vraiment nécessité de informer la population du risque de catastrophe parce qu'elle n'en a pas du tout conscience. L'entreprise ne fait rien pour l'informer. Donc on a travaillé avec l'entreprise aussi pour trouver une méthode pour informer la catastrophe. Le problème, c'est que dans un si bel endroit, il est très difficile d'imaginer la métamorphose que causera la catastrophe. Une catastrophe, quelle est sa caractéristique? Elle va métamorphoser complètement les lieux. Ce paradis va devenir un enfer. Mais quand vous regardez le paradis, vous ne pouvez pas imaginer l'enfer. Donc, les méthodes classiques ne fonctionnent pas. Il faut utiliser les artistes. Donc, on a décidé de s'inspirer du Théâtre Forum, de travailler avec des réalisateurs. Et l'idée, c'est de définir un scénario de risque avec l'aide de l'entreprise et d'institutions constituées. On constitue un public avec des gestionnaires du risque et la population exposée. On met en scène ce scénario de catastrophe. Et ensuite, on va susciter un débat avec la population. L'objectif, sensibiliser la population, je vous l'ai déjà dit, bien sûr, hein, et puis également susciter un retour d'expérience sur les systèmes de gestion du risque. Donc on a imaginé un scénario d'incendie hein, sur le terminal pétrolier et 5 scènes de la vie quotidienne, toute bête. Hein. Le fils qui essaie de lever sa mère est âgée, elle est alitée, il va falloir évacuer, comment on va faire? La prof d'école qui ne sait pas si elle doit évacuer les gamins, si elle doit les laisser et où est-ce qu'elle doit les emmener. Toutes ces situations-là sont jouées par des scénettes, les artistes jouent ces petites scénettes, se retournent ensuite vers le public et disent « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas préparé, bien sûr, et puis que la population demandait à être associée à ça. Alors, pour conclure un petit peu, ce que je veux vous montrer, c'est comment tout ça fonctionne. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, au départ, on part d'une forme ou d'une performance artistique. Cette forme, performance artistique, elle installe une situation dans laquelle les gens ont une expérience esthétique. Mais cette expérience esthétique nous intéresse parce qu'elle va résonner avec une expérience habitante. Il y a un lien entre les deux. Et pour comprendre comment ça résonne, on a un système de correspondance. Je vous donne un exemple. L'atelier d'écriture, c'est un récit d'habitants. L'expérience esthétique, vous savez, c'est le récit. Hein, c'est cette espèce de fonctionnement, de mise en ordre de l'hétérogène que fait le récit. Hein. Ça donne une cohérence au souvenir des habitants. Ça, c'est l'expérience esthétique. Et pour comprendre comment on va résonner avec une expérience habitante, c'est la notion de narratif. Le narratif va résonner avec la poétique de l'habité. Puisque pour fabriquer son milieu de vie, l'habitant utilise des ressorts esthétiques. C'est toute la théorie, la poétique habitante, je n'ai pas eu le temps de vous en parler malheureusement. Mais on est donc bien dans un va-et-vient. Même chose pour la carte de Gulliver, c'est un photomontage. Le fonctionnement de l'expérience esthétique, c'est un engagement corporel. Hein. On l'a vu, hein, le gars qui se met à quatre pattes, tout ça. Donc il y a un engagement corporel dans un dispositif à grande échelle qui va résonner avec la mémoire des pratiques du risque, à partir de la notion de motif, hein, c'est le truc de Berck, hein, les motifs paysagers, les motifs d'action. Scène du risque, c'est la même histoire, hein, c'est la mise en scène théâtrale d'une communauté qui se met en scène à travers ses émotions, hein, la communauté contaminée se met en scène. Donc, la correspondance, ça va être un rapport entre les affects des habitants et le milieu qui est affecté. Alors, affect des habitants, on est dans tonalité affective, hein. On n'est pas dans l'émotion qui est déjà socialisée, on est antérieur, hein. On est dans quelque chose qui n'est pas encore de l'émotion. L'affect, c'est cette disposition affective qu'ont les gens quand ils sont là-dedans. Même chose, bon, je n'ai pas le temps de terminer. Sur la conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que la présentation de ce travail, l'idée c'est de définir les contours d'une expérimentation politique de l'habité basée sur la relation habitante. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a deux dimensions. Une dimension macro-politique, ça, c'est la politique classique, hein, celle de Sciences Po, où il y a des collectifs, des communautés, des mobilisations. Mais quand on travaille là-dessus, on se rend compte que le secret de cette macro-politique, elle réside dans autre chose, qui est une micro-politique. Pour comprendre comment les habitants arrivent à se mobiliser, comment ils arrivent à coopérer avec les artistes pour transformer l'espace public, il faut qu'on comprenne ce qui se passe à un niveau plus petit, dans une micro-politique dans laquelle l'habitant devient un sujet politique qui va être défini par son expérience, son ancrage local, l'expression publique des affects, etc. Et l'articulation de ces deux niveaux, si vous voulez la montée en généralité, ça va s'effectuer par une chaîne de transmission. L'idée, c'est que l'expérience de l'habitant, elle va être traduite grâce aux artistes qui vont la mettre en forme, qui vont la transformer en récit, qui vont la transformer en photomontage. Mais l'intérêt de cette transmission, c'est qu'on garde des éléments de l'expérience de départ. C'est-à-dire que quand vous regardez le texte qu'a fait le gamin de 6 ans, vous êtes ému. C'est-à-dire que l'émotion se transmet. Donc il y a une matière sensible qui circule à travers cette chaîne de transmission. Et je pense que c'est grâce à cette transmission de la matière sensible qu'on arrivera à inscrire sur l'agenda des politiques riveraines avec des enjeux d'habitants grâce à cette, comment on pourrait dire, cette espèce de légitimation de quelque chose qui n'a pas droit de citer, qui est l'expérience de l'habitant. Voilà.